Salut à tous, bienvenue dans Paris Central, le podcast 100% PSG. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui. Le fil rouge, c'est trois choses à changer avant les quarts de finale. Donc normalement, je serai accompagné de Gato et Recoba. Mais bon, on a l'impression que ces mecs-là ont du mal à être à l'heure. Donc je vais vous faire tout le tour des sujets qu'on va aborder aujourd'hui en attendant qu'ils arrivent. Alors, comme j'ai dit, premier sujet, ça va être trois choses à changer avant les quarts. On va parler de Carlos Soler qui risque d'être titulaire en quart de finale en Ligue des Champions. On va aborder le sujet pour voir si c'est grave ou si c'est très, très, très grave. On va parler d'Ugarte qui peut-être, on a dit qu'on voulait le voir, peut-être plus, mais on a des doutes. On va parler de Barcola, de Kangingli et aussi... Gato qui nous rejoint. Salut à toi, Gato.
Salut les amis, comment ça va?
Ça va, ça va. On attend Recoba qui devrait plus trop tarder. On va parler de Marquinhos aussi pour terminer. Donc on va commencer tout de suite. J'espère que tu as fait tes devoirs, Gato, parce que je vous ai envoyé les sujets hier.
Bien sûr.
Du coup, la question. Trois choses à changer avant les quarts de finale.
Trois choses à changer avant les quarts de finale. Avant tout, je vous souhaite déjà un bon mercredi, voilà, journée des enfants, etc. Et puis, bonjour à tous hein, dans le chat. N'hésitez pas à réagir, comme d'habitude. Voilà. Je ne me présente pas aujourd'hui, mais on va quand même parler de ça. Non, trois choses à changer. Je pense qu'il faut changer l'instabilité, justement. Il faut mettre de la stabilité. Il faut mettre de la stabilité dans ce groupe, parce que le changement de joueur tout le temps, alors peut-être que ça marche en Champions League, et peut-être en coupe, mais en Ligue 1, même si on est premier, on a une large avance, moi, ça ne me plaît pas trop les dernières semaines, donc il faut vraiment changer ça, ça c'est le premier point. Deuxième point, je pense qu'il faudra quand même changer la Mbappé dépendance pour la Champions League. Parce que qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il y a une Mbappé dépendance en Champions League, même si Barcola est marqué au match aller face à la Real Sociedad. Et il ne faut pas trop le surresponsabiliser. Il faut essayer de créer quelque chose d'homogène malgré que c'est un joueur qui soit supérieur. Après, pour la troisième chose à changer, bah, mine de rien, je me dis quand même la défense. La défense, tu vois, la défense qu'on a vue l'autre fois, elle était bien contre la Real Sociedad. Il faut absolument la changer. Mais ça, c'était un quatrième, j'allais tricher. Non, mais franchement, le milieu de terrain, il faut changer Fabien Ruiz, je pense. Il faut changer Fabien Ruiz parce que je pense qu'au milieu de terrain, on a vu à l'aller comme au retour, on a vu des problèmes avec lui, même si ça a tenu, même s'il a quand même fait un match honnête. C'est pour moi le point faible du milieu de terrain, quitte à mettre Ugarte, quitte à faire glisser Asensio, quelque chose dès lors son retour. On va voir autrement si d'autres joueurs sont aptes. Voilà.
D'ailleurs, il reste plus que deux matchs. Il resterait peut-être savoir qui va gagner du côté de l'Inter. Bon, on pense que ça va être l'Inter.
Alors, ça va être chaud l'Inter aussi.
Ouais.
Je regarde juste ma caméra, pardon.
L'autre match PSV Dortmund qui va se jouer ce soir. Donc là, pour l'instant, de tous ceux qui sont sortis, c'est vraiment que des gros. Là, il n'y a pas moyen d'éviter un gros pour l'instant. Ce sera franchement PSV Dortmund. Oui, ce match-là, peut-être qu'il y aura quelqu'un, une équipe qui pourra nous satisfaire à ce niveau-là. Mais sinon, franchement, ça fait un moment que dans les quarts de finale, il n'y a pas vraiment d'équipe outsider de foot. Il n'y a que des gros. Recoba, la question, déjà, salut à toi. La question, c'était trois choses à changer avant les quarts.
Ouais, bah juste avant de répondre, je voulais dire un truc.
Vas-y.
Alors, déjà, désolé pour le retard, mais en fait, c'est parce que je ne suis pas content. je suis tombé sur les statistiques. 30 000 spectateurs réguliers. Donc, alors ça, c'est incroyable. 30 000 spectateurs réguliers, c'est incroyable. Mais il y a une petite différence quand même entre 30 000 spectateurs réguliers et 12 700 abonnés. S'il y a des spectateurs réguliers, c'est qu'ils aiment bien. Pourquoi il n'y a que 12 700 abonnés? Donc, à un moment donné, ce n'est pas normal. Et demain, c'est mon anniversaire. Alors, faites-moi plaisir. Abonnez-vous à Paris Central, les gars. Voilà, c'était mon petit coup de gueule.
Je ne peux que confirmer les dires de ce monsieur.
Trois choses à changer. Moi, je dirais qu'il y a surtout, au-delà de trois choses à changer, je pense que c'est plus trois choses à améliorer. Parce que, en fait, depuis le début de saison, il y a des choses, je trouve, qui s'améliorent. Le vrai truc qui posait problème, je trouve, depuis le début de saison, c'est qu'on concédait beaucoup d'occasions et surtout, on donnait beaucoup de buts trop facilement. Ça a été le cas en Ligue des Champions, ça a été le cas même en Ligue 1. Et je trouve que petit à petit, on est beaucoup plus serein à ce niveau-là, on donne moins de buts et même on donne moins d'occasions. Parce que même un match contre Reims ce dimanche où on était moins dedans, où on a fait tourner, où on est post-Ligue des Champions, bah, finalement, Navas, il n'a pas eu grand-chose à faire. Donc là-dessus, je trouve qu'on s'est amélioré. Donc je dirais, c'est peut-être une réponse bête, mais je dirais qu'on doit s'améliorer surtout sur les trois aspects du terrain, c'est-à-dire la défense, le milieu et l'attaque. La défense, parce qu'il y a eu le retour de Nuno Mendes et tu as la méforme d'Hakimi. Donc, tu dois savoir trouver un juste milieu, savoir si tu fais jouer les deux ou pas, savoir ce que tu fais du cas Hakimi et ta charnière aussi, parce que Marquinhos est blessé. Quid de quand il va revenir? Qui c'est que tu vas aligner? Donc, trouver la bonne formule derrière. Au milieu de terrain, trouver le trio qui te fera passer un step en Ligue des Champions, parce que bah, pour l'instant, il y a eu quelques essais. On a Vitinha en 6, on ne sait pas trop qui mettre devant lui. Il y a Ugarte, on va se poser la question tout à l'heure aussi. Donc, trouver ce milieu de terrain-là le plus complet possible qui te fera gagner les gros matchs. Et puis, devant aussi, parce que tu as Gonçalo Ramos qui joue peu, mais qui marque beaucoup. Tu as la question, est-ce qu'on va mettre Mbappé à gauche? Est-ce qu'on va mettre Mbappé en pointe? Et puis, tu as la méforme aussi de Barcola sur laquelle on va revenir. Donc, pour moi, c'est plus s'améliorer sur nos trois aspects, en défense, au milieu et en attaque. Trouver la meilleure formule possible pour avoir le meilleur 11 possible.
Alors, j'ai vu un commentaire très intéressant, qui disait que hier, le match du Barça, il a vu le jeu d'Enrique avec des meilleurs joueurs. Est-ce que vous partagez cet avis ou pas?
T'as coupé ton micro, Gâteau.
Pardon, les amis. Non, parce que le jeu du Barça, c'était un peu à l'arrache. C'était vraiment... Alors, il y a des similitudes, parce que des fois, Luis Enrique, on ne comprend pas exactement ce qu'il veut faire. On n'arrive pas à voir exactement où est-ce qu'il veut aller. Donc ça, il y avait des similitudes par rapport à Xavi, je suis d'accord. Mais le jeu du Barça hier, c'était quoi? C'était, on arrive, on touche un peu le ballon, on libère vite sur nos ailiers, ils essaient de rentrer ou chercher Lewandowski et frapper. Bon, les gars, hier, le jeu du Barça, c'était un jeu où un match coup près. Il n'y a pas beaucoup de jeux, et tu es juste de te qualifier. Moi, j'ai rien vu de spécifique. Je ne sais pas pour vous.
Moi non plus. Hein. Ah, t'as pas regardé?
Non.
Non, mais moi non plus, j'ai rien vu d'étincelant. Il y aurait pu avoir 2-2 si le pénalty avait été sifflé. Naples a poussé, donc le Barça a réussi à mettre le troisième, mais j'ai rien vu d'exceptionnel. J'ai pas vu un jeu qui se dégageait. Depuis le début de saison, c'est ça aussi. Donc non, j'ai pas été transcendé par le jeu du Barça. Il y a de belles transitions, notamment grâce à Lamine Yamal, même Fermín López. C'est des joueurs quand même très vifs, très rapides, qui ont une belle vision de jeu et qui jouent vite vers l'avant et qui très souvent, quand ils ont le ballon, arrivent à vite se projeter. Et puis après, quand tu as des joueurs aussi qui font pas mal d'appels comme Rafinha ou comme Lewandowski et comme ce dernier qui a une vraie science du placement et qui fait toujours des appels dans le bon tempo et pour aider les autres autour, forcément ça aide. Mais des similitudes forcément avec le Paris Saint-Germain? Non. À part que, vous savez, quand une équipe se cherche, des fois, c'est plus facile de jouer à la récupération du ballon et se projeter vite vers l'avant. Surtout quand tu as des joueurs très techniques, balle au pied et avec une vraie science des appels. Donc, le Barça, c'est ce qu'ils font. Mais dans le jeu, dans la possession ou quoi que ce soit, dans l'utilisation du ballon, j'ai pas vu quelque chose de super transcendant.
Alors, sans avoir vu le match, je vois quelque chose dans les commentaires que j'ai vu un peu sur Twitter hier qui me fait me dire que j'ai pas envie de tirer les clubs espagnols, parce que là, il y a only Matt Bones qui nous dit Naples s'est fait voler, il y a penalty tous les jours, c'est une dinguerie. Donc moi, j'ai pas vu ce fameux penalty. J'ai vu par contre le match aller et le match retour du Real Madrid où il y a un but annulé à l'aller et le match retour des cartons rouges qui doivent pleuvoir, il y en a pas eu un seul. Moi, à chaque fois dans les commentaires, vous me dites, ouais, on devrait avoir peur de personne et tout. Moi, j'ai pas peur de ces mecs-là sur un terrain de foot. Moi, ce que j'ai peur, c'est l'arbitre. C'est genre, c'est une équipe, elle va jouer à 12 contre nous. Donc, si je peux éviter des clubs espagnols, pour moi, ça me va.
Ouais, je suis d'accord. Tu veux commencer, Gato, peut-être ?
Bah, écoute, moi, c'est très simple. On l'avait déjà dit. Je veux éviter les clubs espagnols. Donc, Barça, à la rigueur, ouais. Après, Real ou Atletico, non. Déjà, en termes de niveau de jeu, je pense qu'ils sont plus rodés que nous. Par contre, le Barça, c'est prenable. Après, l'arbitrage, si tu as une équipe qui est comme ça, mais qui est vraiment en difficulté, c'est pas forcément le cas du Barça, mais c'est prenable. L'arbitrage ne pourra pas non plus masquer trop de trucs. Parce qu'on parle de l'arbitrage, comme par exemple, la défaite 6-1 au Camp Nou, la prestation ici du PSG était catastrophique. En plus, l'arbitrage a appuyé ça. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on a une mentalité qui est différente, et voilà. Donc, les équipes vraiment à éviter, si elles sont espagnoles, c'est le Real Atlético. Ou sinon, ce serait l'Inter qui joue contre l'Atlético. Le Bayern, ce n'est pas un truc qui est forcément à éviter par rapport aux autres. Numéro 1, c'est City. Numéro 2, Real et Real Inter. 3, Bayern. Et après, Arsenal 5. Et donc, ce serait PSV ou Dortmund. Donc, voilà, je vous ai donné donc l'ordre. Mais le Barça, franchement, ce n'est pas une équipe à évidemment éviter. Ce n'est pas un épouvantail.
Ouais, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Rico, mais je suis plus ou moins d'accord. Mais juste sur un terrain où tout est égal, moi, je dis qu'on les tape. Mais bon, on connaît l'histoire.
Ouais, bah, je ne vous donnerai pas ma liste parce que ce sera le sujet d'une vidéo, mais je peux en tout cas parler des clubs espagnols. Bon, l'Atlético, je ne les crains pas forcément. C'est plus leur jeu, on va dire, qui moi, me pose problème parce que c'est une équipe qui sait se sublimer et faire le dos rond dans les moments difficiles et qui défend très bien. Donc, c'est pas une équipe que j'ai envie d'affronter. Bon, l'Inter, c'est pareil dans tous les cas. Donc, peu importe celui qui se qualifiera, je n'ai pas envie de le tomber. Par contre, je suis largement d'accord avec vous là-dessus, c'est que Barça ou Real Madrid, dans tous les cas, le Barça, c'est en dessous et on peut les taper footballistiquement parlant, mais le Real aussi. On a vu Leipzig faire clairement jeu égal avec eux, voire prendre l'ascendant. Ils ont eu beaucoup d'occasions et sur le terrain, ils auraient pu se qualifier. Malheureusement, il y a tout ce qu'il y a autour des clubs espagnols et c'est vrai que quand tu vois encore le pénalty hier qui aurait dû être sifflé pour le Napoli et qu'il n'y a même pas eu un appel à la VAR, tu te dis quand même qu'on marche sur la tête et quand on peut voir les vols pareil sur le match, les deux confrontations avec Leipzig, tu te dis ouais, il y a un vrai problème là-dessus, donc tu n'as vraiment pas envie de tomber sur eux parce que tu sais que oui, c'est sûr que tu peux les sortir le Barça, tu sais que tu peux faire jeu égal avec le Real, mais à un moment donné, il y a tellement de facteurs qui font que tu n'as pas envie de les tomber, que le Real, c'est pareil, parce qu'on parle de l'arbitre, mais les sortir aussi sur un match de Ligue des Champions, sur un aller-retour, c'est compliqué. Ils ont ce truc-là, c'est leur compétition. Donc, moi, c'est vraiment, même au-delà de Manchester City, c'est l'équipe que je veux pas tomber. Donc, ouais, c'est sûr que si même on parle juste de l'arbitrage, tu n'as pas envie. Mais même après, avec tout ce qui est le fait que ce soit leur compétition, etc., tu n'as pas envie de tomber le Real Madrid, hein, clairement.
Tu n'es pas le
bien
seul.
Bien sûr qu'il y a penalty factory, bien sûr. Si t'es Barcelonais, ok, mais si t'es un supporter lambda, tu sais très bien qu'il y a penalty, arrête.
Tu n'es pas le seul only Matt Bones. J'ai plus peur de l'Inter que toute autre équipe parce que franchement, moi, je trouve que collectivement parlant, c'est très très costaud. Et je pense que City, on a beau dire qu'ils sont très forts et tout, mais là, ils sont dans une course à trois dans la PL. Je pense qu'ils risquent d'en laisser des plumes, alors que l'Inter, le championnat est plié, collectivement, c'est très fort. Ils ont déjà fait une finale l'année dernière, et franchement, ils sont passés à deux doigts de la gagner, d'ailleurs. Moi, personnellement, je ne sais pas si je préfère tomber sur l'Inter ou City. Moi, je crois que je préfère tomber sur City au moment où la course en PL, elle fait rage, parce que là, je crois qu'il y a un point d'écart entre Arsenal, City et Liverpool. Donc, il y a moyen qu'entre deux gros matchs de PL, on fasse quelque chose. Mais l'Inter, c'est chaud.
Non, les gars, moi, je préfère tomber sur l'Inter, les gars. L'histoire de City avec la PL qui joue encore, et bah, vu leur effectif et vu l'habitude et l'expérience qu'ils ont sur ça, limite, ça les affecte pas. Eux, ils sont habitués à jouer sur quatre tableaux, tranquille, la Champions League, la FA Cup et tout ça. En plus, ils sont sur trois tableaux maintenant parce que la Champions League, la FA Cup puisse la Première Ligue, tandis qu'il n'y a plus la Carabao Cup. Dédicace à Sofiane de Real, frérot. Donc la seule équipe qui n'est presque pas battable, il dit que c'est City aller-retour. Je suis d'accord avec lui. L'Inter en soi, ils ont des qualités, ils ont de quoi nous éteindre. Mais sur deux matchs, on peut leur poser des problèmes. Donc c'est vrai que c'est très très costaud l'Inter. Voilà. Mais franchement, l'équipe va vraiment éviter entre les deux, c'est City, c'est pas l'Inter.
Rico. Oui, totalement. Pour moi, battre City sur deux matchs, c'est mission impossible. Autant sur un match, tu peux peut-être créer l'exploit. T'as peut-être les montants avec toi. Tu arrives à marquer un petit but. Tu les fais douter. Tu peux aller chercher un nul. Peut-être gagner. Encore, ça me paraît mission impossible. Mais sur deux matchs en Ligue des Champions, pour moi, c'est injouable. Alors que l'Inter, certes, ça paraît au-dessus du Paris Saint-Germain. C'est très complet et très compliqué à affronter. Mais ça reste pour moi une équipe que tu peux sortir sur deux matchs. On l'a vu, il y a des problèmes quand même hein, pour marquer devant le match face à l'Atlético. Ils doivent le gagner 2 ou 3-0 le match aller. Au final, ils sont qu'à 1-0. Et ce soir, au Vanda Metropolitano, l'Atlético peut rêver. Si tu marques ou même t'égalises à la fin, tu te retrouves en prolongation, tu peux la faire douter cette équipe. Donc, alors que ça aurait été City, ils ne t'auraient pas raté ce que Arnautovic a raté. Parce que City, ils ont Haaland, ils ont Alvarez quand il n'est pas là ou même quand il est là, ils ont des joueurs comme Foden, etc., des mecs qui font la différence, et ça ne tremble pas devant les cages en général. Donc non, clairement, je préfère prendre l'Inter. Pour moi, City, c'est comme le Real, c'est à éviter, pas pour les mêmes raisons, mais c'est les deux plus gros à éviter.
Ouais, je ne sais pas. Moi, je vois une sortie surprenante de City à un moment donné dans cette compétition. Je ne pense pas qu'ils vont aller loin. Après, c'est juste un feeling. On va parler de Soler. Monsieur Carlos Soler, qui pour l'instant, vu l'affection que Luis Enrique a pour Mukiele, risque d'être titulaire en quart de finale aller de Ligue des Champions. Messieurs, est-ce que ça vous fait peur ou est-ce que ça vous fait très peur? Vas-y, Rico.
Non, jamais de la vie. Pourquoi tu penses ça? Je pense pas que Soler soit titulaire en quart de finale de Ligue des Champions. Ah bah oui, c'est vrai que Hakimi est... Non, mais moi, je pense que ce sera... Alors, soit ce sera Mukiele, soit ce sera un autre défenseur central. Mais je pense qu'on jouera... Bah en fait, comme on joue depuis le début de saison avec Hakimi et Hernandez à gauche, avec trois décès et un Hakimi qui rentre dans le milieu de terrain et qui est beaucoup plus haut que les autres, je pense qu'on aura une ligne de trois et un Nuno Mendes beaucoup plus haut. Je pense que ce sera trois centraux.
Gâteau.
Ouais, bah ok... Le problème, c'est que Soler, il est aimé par le coach et que en arrière-droit, mine de rien, il a plus de références que Mukiele cette saison, qu'on le veuille ou non, parce qu'il a été plus utilisé là-bas. Il est moins bon, c'est vrai, à nos yeux, mais aux yeux du coach, j'ai pas l'impression. Donc il est fort probable même qu'il commence à... Et même pire, il est probable qu'il commence au milieu de terrain et que ce soit Warren Zaïre-Emery qui aille à droite. C'est encore des cas qui sont possibles parce qu'avec la folie du coach, c'est ça qu'on a dit, Recoba, avant que tu arrives, vraiment les trucs à arrêter avant l'écart, c'est les changements perpétuels comme ça qui nous mettent en... pas forcément en difficulté, mais qui nous font poser des questions à chaque fois. Comment, pourquoi et tout. Donc, qui commence, moi, ça ne me ravit pas parce que ce n'est pas un joueur en qui j'ai confiance. Et j'aurais préféré Nordi Mukiele. Mais j'ai bien peur qu'il commence en tant que latéral droit. Alors, est-ce qu'après, comme Rico Baladi, ça va être une défense qui va changer dans le sens où, dès lors qu'un latéral monte sur son côté, si imaginons le latéral droit monte, le latéral gauche reglisse et ça fait une défense à 3, et vice-versa. S'il y a Nuno Mendes qui est titulaire aussi, je ne pense pas que ça va être ça. Vraiment une défense à deux avec vraiment deux arrières latéraux. Donc il y a des risques, justement, il y a des risques que Soler soit là. Mais aussi, il y a des risques que Soler soit bon. On peut pas enterrer des joueurs comme ça. Même si j'ai très, très, très peu d'espoir avec cet homme. Parce que les prestations qu'il fait en ce moment-là, ouais. Donc bon, voilà, j'espère pas. Malheureusement, je n'espère pas. Mais... On verra bien.
Je pense que ça peut dépendre aussi de du retour de Marquinhos, parce que justement, on sait que Marquinhos a déjà joué à droite et qu'en soi, il peut vraiment couvrir cet axe droit slash latéral droit, tout cet espace droit. Du coup, tu peux aligner plus facilement un Nuno Mendes à gauche qui monte avec une défense qui reste à 3, comme le faisait avec Luis Enrique avec Lucas Hernandez à gauche. Et du coup, tu peux mettre Hernandez, Beraldo et Marquinhos, vu qu'il n'a pas trop confiance en Mukiele.
Ok. Ugarte. Il y a eu deux matchs récents d'Ugarte. Il y en a un qui était plutôt très bon. Et celui d'après qui était vraiment pas bon contre Reims. Je me rappelle qu'il y a quelques semaines, je disais pourquoi pas faire un milieu Zaïre Emery ou Ugarte Asensio. Mais du coup, je vais devoir faire un mea culpa parce que, après ce que j'ai vu face à Reims, je pense que Ugarte, dans un match contre un gros, il va perdre trop de ballons dans des zones dangereuses du terrain. Parce que s'il le fait déjà contre Reims, t'imagines le pressing de City avec Ugarte juste devant la défense qui perd ce genre de ballon, parce qu'il a perdu des ballons qui étaient vraiment très, très, très dangereux. Donc, je crois qu'on repart sur un milieu de terrain avec des points d'interrogation. Est-ce que pour toi, Gato, Ugarte, on devrait le mettre titulaire dans les grands matchs de Ligue des Champions?
Ça va dépendre aussi, parce que ce dont tu as besoin. Si tu as besoin de contrôle, de relancer de loin et avec une certaine qualité, ça va être contraire à ce que j'ai dit avant, mais Fabián Ruiz, elle va peut-être être plus utile que Ugarte. Avec Vitinha aussi en 6, faudra voir pour les sorties de balles. Et venir aider aussi les centraux à se placer comme ça. Ça, Ugarte sait le faire. Mais si c'est pour aussi avoir aussi un bagage physique au milieu de terrain, Ugarte va le préférer à Fabián Ruiz ou Vitinha dans ce cas-là. Mais de toute façon, depuis un moment, j'ai l'impression qu'Ugarte, c'est banquette. Et puis, il fait des matchs dits de complément ou des matchs où il y a un turnover. Il reste concerné. Mais en Ligue des Champions, je ne vois pas débuter. Je vois continuer en Coupe de France ou peut-être en Ligue 1. Mais je ne pense pas qu'il va changer Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Fabián Ruiz.
Et toi, Rico, est-ce que tu as confiance en Ugarte dans un grand match de Ligue des Champions?
Non, malheureusement, non. J'avais beaucoup d'espoir en lui. Et son début de saison, attends, parce que je vois des mots-clés, je vois Anus Porno. Bref, il m'a perturbé. Ugarte, c'est vrai que j'avais beaucoup d'espoir en lui. C'est un joueur qui a beaucoup de potentiel et qui a fait un gros, gros début de saison. Et malheureusement, il était peut-être en sur-régime. C'est dommage parce qu'on a vu quand même un vrai, vrai potentiel. Et même dans les ressorties de balles, c'était vraiment intéressant. Malheureusement, il marque le pas physiquement depuis un moment et maintenant techniquement aussi. Et c'est vrai que ces derniers matchs où il a eu un peu de temps de jeu, je trouve que c'est vraiment le jour et la nuit. En fait, dans le même match, il est capable vraiment du meilleur comme du pire. Il est capable de jaillir dans les pieds et récupérer un super ballon et derrière se projeter ou donner un bon ballon. Et aussi, il est capable de perdre un ballon dangereux, de se faire bouger physiquement, de te lâcher une passe catastrophique. Donc, malheureusement, dans un match face à Reims ou un autre en Ligue 1, ça peut suffire. Mais quand tu vas rencontrer un gros comme l'Inter, comme Arsenal ou quoi que ce soit qui exploite à merveille les pertes de balles, les récupérations hautes et rapides, malheureusement, tu peux être vite, vite, vite en danger. Donc, personnellement, le numéro 6 pour moi qui m'a le plus rassuré, malgré que défensivement ce ne soit pas forcément ça, c'est Vitinha. Parce que ses sorties de balles, elles permettent de respirer. Techniquement, il est sûr, ses contrôles, ses prises de balles, son orientation du corps, tout est bien fait. Et après, avec Ruiz et Warren, comme on parlait dans ce milieu type, même si on n'est pas fan de Ruiz, ils se proposent, ils viennent aider. Et mine de rien, je pense que c'est le milieu de terrain qui, pour l'instant, nous réussit le mieux. Alors après, à voir pour Fabián Ruiz, est-ce que tu mets une touche un peu plus offensive comme Asensio, mais il est blessé, ou comme Kangin Lee, mais il tient que 30 minutes? Telle est la question, mais je pense que c'est ce milieu-là qui, pour l'instant, nous a donné le plus de garanties, on va dire.
Ok.
Non, c'est demain, c'est demain, les gars. Mais merci. Ouais.
Vous êtes 280. Sachez que demain, il va nous rejoindre chez les vieux, Rekoba. Donc, je veux 300 likes pour son chiffre qui va commencer par 3 maintenant. Donc, on exige 300 likes pour l'anniversaire de Rekoba. Et on va enchaîner direct avec Monsieur Kanging Lee. Non, Monsieur Barcola, pardon, juste avant. Monsieur Barcola, on ne sait pas trop ce qui se passe avec Barcola. Ça a commencé de manière un peu fébrile. Après, ça s'est vraiment décanté. Il est devenu très, très bon, décisif dans les matchs de Ligue des Champions. Et là, ça fait 3-4 matchs où il est un peu transparent. Alors, il faudrait déjà essayer de trouver les raisons à ça. Est-ce que c'est le joueur, c'est encore un jeune joueur, il va avoir des variations entre le bon et le meilleur. Il n'est pas encore stabilisé. Mais est-ce que aussi, ce n'est pas la faute du coach qui n'arrête pas de le sortir et le rentrer. Il fait des 45 minutes de match, des changements bizarres en fait. Et est-ce que vous pensez que c'est juste un joueur qui est en progression ou est-ce que le fait qu'on n'arrête pas de changer, comme a dit Gato, le perturbe un petit peu. On y est.
Super jingle. mais si aujourd'hui j'ai 15 kilos en moins. Non, franchement, Barcola aussi, il a le droit de faire des bons matchs malgré qu'il soit baladé de gauche à droite. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'on nous a vendu comme quoi. Parce que là aussi, il peut jouer partout. Dans tous les fronts, sur le front de l'attaque, gauche, droite, au centre. Donc, c'est vrai qu'aussi, le match où il n'était pas forcément bon contre la Real Sociedad, avec Hakimi derrière lui qui ne lui servait pas très bien, avec Mbappé qui était plutôt cherché, mais ça a permis à l'équipe de briller, comme Dembélé aussi. Ils étaient mis peut-être dans des mauvaises positions, mais ça a permis à l'équipe de briller, à Mbappé de briller plus, et ça a aidé l'équipe. Donc ça, c'est un point. Deuxième point, aussi, il a le droit de faire des mauvais matchs. Et aussi, ça reste un jeune joueur. C'est pas un joueur aguerri, c'est pas un grand joueur, c'est pas un joueur qui a de l'expérience. Sa première année en Champions League, sa première année dans un club important dans son pays, parce que les années qu'il faisait à Lyon n'était pas un club important en Ligue 1 sur le plan sportif, même si dans l'histoire, évidemment, Lyon est un grand club français. Donc, il a un coup de mou, ça arrive aussi. J'espère pour lui qu'il va revenir correctement. Mais bon, c'est peut-être que si tu mets Mbappé à gauche, bah Barcola, tu es obligé de le mettre à droite ou dans l'axe et il se sent peut-être moins bien là-bas. C'est une chose. C'est pas que le coach non plus. Tu as l'impression, des fois, il essaie de dribbler, mais ça passe pas. Là, c'est pas que le coach. Des faits de jeu ou des frappes non cadrées, etc. Ça, c'est pas que le coach. Oui, le coach mentalement ne l'aide pas, mais ce n'est pas que dû au coach, c'est dû aussi à lui. Et je répète, c'est aussi un jeune joueur qui apprend, donc il va progresser, tomber, reprogresser, retomber. Et c'est comme ça qu'il va devenir, pourquoi pas, un grand joueur dans ce PSG, en tout cas.
Et toi, Rico, t'en penses quoi de ce qui se passe avec Barcola?
J'en pense que, pour moi, il y a deux facteurs. La première chose, comme l'a bien dit Gato, c'est que c'est un jeune joueur. Déjà, même pour des grands joueurs, des joueurs expérimentés, une saison, c'est jamais linéaire. Donc, c'est normal qu'il ait un coup de mou. En plus de ça, c'est un jeune joueur qui a fait de très bonnes choses sur ses 6 mois à Lyon. Parce qu'on le rappelle, hein, il n'y a même pas plusieurs saisons en Ligue 1. Il y a 6 mois à Lyon et qui est monté très vite, titulaire indiscutable à Lyon, en espoir, qui a scoré très vite, qui a fait de très bonnes performances très vite. Pareil au Paris Saint-Germain. Et c'est normal d'avoir un coup de mou. Il y a eu énormément d'attentes aussi. On a vite parlé de successeur de Kylian, etc., de joueurs importants. Donc forcément qu'il a changé de statut. On parle même de pourquoi pas de surprise à l'Euro. Donc voilà, faut digérer tout ça. C'est normal que voilà, il y a le transfert, mais il y a aussi son nouveau statut. Et pour moi, il faut aussi le moment de digérer tout ça. Et c'est normal qu'il y ait un petit coup de mou. Maintenant, c'est au coach de le faire souffler, de le mettre sur le banc et de pouvoir le faire rentrer aussi pour retrouver peut-être de la fraîcheur, retrouver une nouvelle dynamique. Et aussi, au-delà de ça, c'est pour moi ces consignes, parce qu'on le sait, Luis Enrique veut qu'il pousse sur les 1 contre 1, qu'il colle la ligne et qu'il aille jouer un maximum de 1 contre 1. Et attention à ne pas travestir son jeu non plus, peut-être mieux doser entre aller chercher le 1 contre 1 et jouer peut-être plus collectivement, rentrer à l'intérieur, faire des appels différents. C'est un joueur très intelligent qui joue très souvent très très juste. Et du coup, attention à ne pas trop forcer non plus, même si c'est à la demande du coach. Donc, j'espère qu'il y aura des ajustements petit à petit. Mais en tout cas, pour moi, c'est juste normal.
Ok. Autre interrogation, c'est notre joueur qui vient de Corée du Sud, si je ne me trompe pas, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Monsieur Kang In-Wa. Ouais. Parce qu'il y a, Kubo qui m'a fait douter. Kang In-Wa, ce que je voulais dire sur Kang In-Wa, c'est qu'on voit de l'idée chez ce joueur. On voit un joueur qui peut être limite en meneur de jeu, qui joue vers l'avant. On repense à sa passe d'ess pour Mbappé face à la Sociedad. Je me rappelle une autre passe qu'il avait fait pour Mbappé, une passe décisive où il fait un extérieur du pied avant le milieu de terrain, vraiment un extérieur du pied ultra précis. On sent que c'est un joueur qui peut accélérer quand ce PSG ronronne. Le problème qu'on a souvent est que ça tourne en rond et qu'on fait des passes, et ça ne fait rien. On sent que dans sa tête, il a la vision. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, bah, on voit que dans la réalisation, ça pêche encore. Il y a toujours 3 cm qui manquent à une passe, une frappe qui va forcer. On a toujours l'impression que dans la réalisation, il manque encore quelque chose. Rico, qu'est-ce que tu penses de la saison de Kang In-Wa jusqu'à maintenant ?
Je pense que comme vient de dire PNL, c'est ce que j'allais dire exactement, physiquement, ça ne suit pas. Et en fait, le physique, mine de rien, c'est hyper important pour le cerveau, pour le mental et pour les prises de décision. Et quand le physique ne suit pas, tu perds en lucidité et en sang-froid. Et je pense qu'il a un vrai problème, surtout à ce niveau-là, Kang In-Wa, parce que le talent, il l'a, la technique, il l'a, la vision du jeu, il l'a, il a beaucoup de qualités. C'est un joueur qui donne beaucoup pour le collectif et pour les coéquipiers et qui a une vraie qualité de passe et de vision de jeu et même de frappe aussi. Hein. On a vu des frappes très intéressantes, les coups de pied arrêtés aussi. Maintenant, je pense que son plus gros problème, c'est vraiment physique. Je pense qu'il doit s'aguerrir là-dessus. Déjà, physiquement sûr pour tenir 90 minutes. Et puis aussi dans sa gestion physique d'un match, parce qu'on voit qu'au bout de 30 minutes, il est carbo. Quoi. Il fait énormément d'efforts et au bout de 30 minutes, il est carbo. Au bout d'une mi-temps, tu peux plus le voir. 10 minutes dans la deuxième, ça y est, c'est terminé. Bonsoir, extinction des feux. Donc, il est surtout là le problème. Et je pense que quand tu auras réglé ce problème physique, tu auras réglé ce problème justement de justesse technique et de faire les bons choix au bon moment. Parce que c'est vrai que souvent, tu te dis, mais pourquoi il centre? Pourquoi il ne revient pas derrière? Pourquoi là, il ne va pas aller chercher le 1 contre 1? C'est vrai qu'on se demande, mais il y a énormément de potentiel. Et pour l'avoir vu aussi au stade la semaine dernière, puisqu'il était titulaire, il a d'ailleurs joué 90 minutes, tu sens qu'il y a un vrai, vrai potentiel. Tu sens qu'il a vraiment des qualités. Et un peu à l'image d'un Bernardo Silva, tu sens qu'il serait peut-être plus intéressant dans ce milieu plutôt qu'à droite. Et d'ailleurs, peut-être que l'arrivée d'un Bernardo Silva lui ferait vraiment du bien pour progresser et pour apprendre énormément, parce que c'est vraiment le même style de joueur.
Gâteau.
Pas oublier aussi qu'il y a un championnat qui est beaucoup moins physique que la Ligue 1 et qu'il est confronté à des mecs qui ne vont pas de main morte. Et ça reste aussi un jeune joueur et techniquement, il est au-dessus de la moyenne et il est un peu frêle. Comme tu l'as dit, il manque un peu de physique et je pense que va falloir aussi qu'il travaille là-dessus et peut-être que laisser un peu plus de technique. La technique ne s'oublie pas normalement, mais travailler un peu plus sur le physique, quitte à être moins rapide, mais techniquement sortir des choses intéressantes et libérer des ballons. Pas besoin forcément qu'il soit le plus rapide s'il joue au milieu de terrain. Par contre, s'il joue à droite, il y a besoin de vitesse et il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc, c'est aussi un joueur qui apprend, c'est un nouveau championnat pour lui. Vous savez, quand vous partez d'un pays et que vous en arrivez dans un autre, c'est pas forcément évident. Et puis la première saison, lui aussi, en plus d'avoir énormément de personnes qui doivent aussi s'adapter en même temps, donc il n'a pas forcément des cadres sur lesquels se reposer à son poste, parce qu'il n'y avait pas forcément d'ailier droit qui était cadre à son arrivée. Il est aussi parti du côté de la Coupe d'Asie, tout ça, donc c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Malgré tout, en Ligue des Champions, sa rentrée contre la Real Sociedad, c'était bon. Sa rentrée contre le Milan au match aller aussi, c'était bon. Il y a des matchs, il y a des petits matchs comme ça qui me disent qu'il y a vraiment espoir avec ce joueur. Il y a des joueurs dans l'effectif, on en reparlera plus tard, où je mets mon veto et je dis première saison, elle est dehors. Mais lui, en tout cas, j'ai espoir en lui. C'est une question de physique, une question aussi d'adaptation, peut-être de. Je sais pas moi, le froid, et peut-être il fait froid ces temps-ci, je sais pas, hein, j'ai essayé de trouver des circonstances, mais en tout cas, et moi j'aime bien Lee Kang In, il faut qu'il progresse évidemment comme tout le monde, Après, ça ne va pas tous devenir des Messi ou des Cristiano ou des Modric. Il ne faut pas attendre de voilà, on aura un niveau homogène, tranquille. Mais j'ai l'espoir en ce moment.
En super sub, il pourrait être hyper intéressant. Hein. Il l'a déjà montré en rentrant 20-30 minutes avec des joueurs en face un petit peu fatigués et qui poussent un peu physiquement. Je pense qu'il pourrait être hyper intéressant, très lucide pour faire la différence. Hein.
Ok, bah peut-être en super sub, effectivement. On va parler de M. Marquinhos qui est blessé pour une certaine période, au moins jusqu'à la trêve. Donc bon, on va parler de tout ça, les amis, restez avec nous. Marquinhos out, ça fait 4 joueurs pour 3 places. Qui doit être titulaire dans cette défense aux côtés de Achraf Hakimi, parce que on a Danilo qui a beaucoup joué, on a Hernandez, on a le retour de Nuno et on a Beraldo qui a fait de bonnes performances ces derniers temps. Donc sur ces 4 joueurs, c'est qui les 3 que vous prenez, Gâteau ? Danilo, Hernandez, Nuno, Beraldo.
Écoute, je vais faire la sécurité et enfin la sécurité. Ce qui aurait été le plus simple. Les meilleurs joueurs à leur poste, c'est-à-dire j'aurais mis Hernandez en centrale, puis Marquinhos et Nuno à gauche. Mais bizarrement, je vais mettre Hernandez à gauche, Beraldo en centrale gauche et Marquinhos à droite. Centrale droite.
Marquinhos blessé, là, justement, je te dis, les 4 joueurs que.
Si là, il est.
Là, il est blessé jusqu'à la trêve. Donc là, t'as 4 joueurs.
S'il est blessé, tu mets Hakimi à droite, tu mets Nuno Mendes à gauche, et puis tu mets Hernandez. Bah, le problème, c'est que Hernandez, moi, j'aime bien à gauche, parce qu'il apporte aussi la sérénité. Donc, Nuno Mendes, je ne suis pas encore si convaincu que ça. J'ai l'impression qu'il y a. J'ai peur de cette fragilité-là. Je n'ai pas envie de le faire revenir tout de suite, de faire des gros matchs tout de suite. Donc, je pense qu'on va quand même mettre Hernandez à gauche, Beraldo, Danilo et Hakimi. C'est parce que les histoires de deux gauchers, ça a marché une fois avec Hernandez et Beraldo, mais je sais pas, j'ai mis un doute là-dessus.
Mais pourquoi? Genre là, je vais encore devoir dans le chat, c'est pas possible d'avoir deux gauchers lors de gros matchs. Pourquoi? Alors qu'on m'explique pourquoi. Voilà. Qu'on me dise pourquoi.
En général, moi, je me suis posé la même question que toi. Après, j'ai été sur Twitter et j'ai vu ce que les gens ils disent en général. C'est qu'ils disent que les gauchers, en général, ils ont un pied droit qui est plus faible que le pied gauche des droitiers. Je ne sais pas si j'ai été clair.
Ok, oui, ils savent pas trop relancer des deux pieds, contrairement aux droitiers qui peuvent relancer du gauche.
Exactement.
Bon, bah voyons voir alors le pied droit de Hernandez et Beraldo. Est-ce qu'ils ont un pied droit ? Est-ce qu'on sait répondre à ça ?
C'est vrai que je n'ai pas. Tu les as déjà vus, leur pied droit, Gâteau ?
Non, j'ai jamais eu l'occasion de les
donc
voir.
Ça peut être un élément de réponse, du coup.
Bah, parce que si étant donné que je les avais vus, peut-être qu'ils n'utilisent pas forcément. Mais bon, après, c'est vrai que de gaucher, c'est même pas forcément une légende urbaine. Mais... Ouais, je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas,
regarde même Messi, qui est le meilleur gaucher du monde, son pied droit, il est catastrophique.
Catastrophique, donc, ça reste un pied droit, un bon pied. Tu regardes Di Maria, qui est un gaucher. Magnifique,
son pied droit, il est nul aussi.
Mais il est tellement bon avec son pied gauche que ça, voilà. Tandis que les droitiers, leur pied gauche, ils peuvent un peu tenter. Ils ont un pied droit qui est très bon, mais qui ne sera pas excellent. Par contre, leur pied gauche, il a quelque chose. Tandis que les gauchers, purs gauchers, ils sont tellement forts du pied gauche, mais du pied droit, ouf, laisse tomber. Donc, c'est... Faut voir, hein.
Non, je vous rassure, j'ai vu Messi jouer 2 ans au Paris Saint-Germain, j'ai vu le nombre de passes et de centres qu'il a raté avec son pied droit. J'ai regardé tous les matchs du Paris Saint-Germain, je reste sur ce que j'ai dit. Et Di Maria, c'est pareil, à chaque fois que tu le mettais sur son pied droit, c'était pas la même qualité du tout. Alors qu'en gauche, en droitier, en général, son pied gauche, il est moins catastrophique.
Regarde ce qu'a dit Melvin, Di Maria préfère faire des coups du foulard utiliser son pied droit.
Exactement. C'est vrai. C'est exactement ça. Du coup, vous avez un peu répondu. Ah non, je sais pas, que je crois que tu n'as pas répondu, Rico.
Non, ouais, du coup, ouais, c'est une bonne question. Après, en fait, pour moi, de toute façon, Luis Enrique est avec eux à l'entraînement. Ils voient très bien s'ils sont capables de sortir de situation avec leur pied droit ou en utilisant le pied gauche, que ce soit un extérieur du pied ou donner autre part ou sauter le joueur qui est devant. Donc, est-ce que c'est un vrai problème ou pas? En tout cas, pour l'instant, factuellement, ça ne l'était pas, puisqu'ils ont fait un très bon match contre la Sociedad. Je ne sais pas si c'était eux qui étaient alignés contre Monaco, je ne crois pas. Mais en tout cas, contre la Sociedad, ça, je m'en souviens, et pour le coup, ils ont été très bons. Maintenant, il faut voir face à peut-être une adversité un petit peu différente, avec de meilleurs attaquants et de plus gros poisons. Donc, ce serait à tester, mais personnellement, c'est peut-être la charnière qui me rassure le plus. En plus de ça, la qualité balle au pied des deux, la qualité de relance, je trouve que c'est complémentaire. On a bien vu Beraldo Danilo, c'est très lent les deux, et ça se fait très très vite aspirer. Donc le fait d'avoir Beraldo avec Hernandez, c'est quand même mieux. Les duels aériens, les deux sont bons. Et puis ouais, balle au pied sont très forts, ils sont sereins, il n'y a pas d'erreur technique. Donc je préfère peut-être ça que Hernandez Danilo par exemple. Maintenant Nuno Mendes, va falloir quand même prendre des précautions, voilà, petit à petit, si tu veux l'avoir à 100% pour le quart de finale de Ligue des Champions, va falloir quand même que tu le fasses souffler, donc il va falloir qu'on ait quand même Lucas Hernandez côté gauche en championnat notamment, mais personnellement je pense plutôt partir avec Hernandez Beraldo.
Moi je reste là-dessus aussi, parce que autant j'aime beaucoup Danilo. Les équipes qu'on va jouer pour la plupart en quart, c'est des équipes qui vont nous presser et on va avoir besoin d'être précis techniquement. Et c'est pas forcément sa force. Après, si tu sais que tu vas subir tout le match, peut-être que quand Danilo il peut servir. Quand tu joues plus bas et que tu subis, il y a peut-être Ugarte et Danilo qui sont plutôt intéressants. Mais quand on joue haut avec le ballon, franchement, tu mets un Beraldo Hernandez, ça peut être très 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 bien. Commence à poser des questions, les gars, parce qu'on a fait le tour des sujets. J'en ai déjà noté quelques-unes, mais continue à poser des questions. C'est le moment où on va répondre à vos questions. Olivier, ta question, on l'a déjà répondu, mais bon, t'as demandé gentiment. Donc, on va pas lancer gâteau là-dessus, mais on va juste dire gâteau, il a déjà dit on vend. Reikoba, on t'écoute.
Ouais, s'il y a une belle offre, ouais, je pense qu'il faut tourner la page, même si je pense qu'il pourrait servir pour l'intégration d'un Beraldo, d'un Moscardo, etc. Mais bon, allez, ça suffit. Je pense que merci pour tout et il faut passer à autre chose. Mais il faut recruter aussi, du coup.
Ok, Gato, Beraldo versus Lucas au poste de centrale gauche, tu prends qui?
Je crois que la question ne se pose même pas. Je pense que Beraldo, il fait des belles choses, mais et il joue avec le fait qu'il y ait des circonstances atténuantes. Alors oui, il joue bien au poste central gauche, mais Lucas Hernandez, il joue latéral gauche depuis le début de saison pour aussi compenser les absences. Il les manque dans l'effectif. Donc moi, Lucas Hernandez, en tant que central gauche, rien à dire. Je prends tous les jours et ce serait même bête de s'en priver un jour, parce qu'il faudrait qu'aussi lui il soit dans son meilleur poste, pour qu'on puisse exploiter son plein potentiel.
Je note que depuis 13h, je ne sais pas s'il y en a plein qui ont fini le taf ou ils sont en post-déj, que vous êtes beaucoup là, vous êtes 380. Je répète, demain, c'est l'anniversaire de Reikoba. Likez, on veut 300 likes pour ses 30 ans. Merci.
Et abonnez-vous aussi. Abonnez-vous. C'était quand même ce que j'avais demandé à la base.
Ouais, c'était ce qu'il a demandé comme cadeau. Donc, abonnez-vous, il a dit, on est 30 000 réguliers et il n'y a que 12 000 abonnés. Ça veut dire qu'il y a 18 000 connards dans l'histoire. Donc, on continue. Le pointu qui nous dit confiance totale à Enrique, en fonction de l'adversaire, il adoptera sa tactique. Vous en pensez quoi?
Bah oui, il en a déjà parlé, il est capable de ça. De base, c'est pas forcément ce qu'il affectionne. Lui, il veut mettre son équipe en place et dominer son adversaire. Alors après, pour dominer, il faut aussi savoir s'adapter en fonction, mais aujourd'hui, on sait qu'il n'a pas forcément tous les joueurs pour mettre ce qu'il a envie de mettre en place à sa disposition. Ouais, il y a énormément de travail, de vidéos. Il y a vraiment un travail très pointu, que ce soit sur les séances d'entraînement, que ce soit sur l'adversaire, la préparation des matchs, psychologiquement aussi. Donc, évidemment, totale confiance en lui. Pour l'instant, ce que je vois, c'est prometteur. Il n'y a pas de choses qui me chiffonnent trop. On va dans le bon sens. Je trouve qu'il y a de l'amélioration collectivement et même individuellement pour la majorité des joueurs. Et évidemment qu'on va continuer à être derrière lui. Les médias, je préfère ne pas calculer. On sait très bien qu'ils ont un parti pris. Donc, ça ne sert à rien de les écouter.
Ok. Autre question pour Gâteau. On va te donner... je vous la donne à tous les deux. Les gars, vous avez droit à deux recrues l'été prochain. Vous prenez qui ? Commence, Gâteau.
Il faut absolument renforcer le milieu de terrain, je pense. Donc, moi, j'irai chercher Bernardo Silva. Voilà, pour la créativité qu'il a. Et en attaque, en pointe. Bon, ça, c'est...
Si après hier soir, tu ne peux pas dire Osimhen.
Non, on ne peut pas dire Osimhen, mais je n'allais pas dire Victor Osimhen. Si tu peux aller chercher Haaland, tu prends. Et il ne viendra pas. Donc, comme il ne viendra pas, j'irai chercher plutôt Bruno Guimarães. Silva, Guimarães, c'est bien pour le milieu de terrain, ça renforcerait. Et puis après, bon, Ramos devra quand même sortir un peu. Et puis Dembélé, etc., ils vont progresser aussi.
Je seconde cet avis, moi aussi, Guimarães, Silva, Rico, je t'écoute.
Pareil, si je dois en prendre que deux, je prends un 6 et un 8-10. Donc Guimarães et Bernardo Silva.
Ok, c'était vite réglé, unanimité. PNL QLF qui nous dit, les gars, j'en ai marre des débats sur RMC, c'est un média affreux. Alors Rico a pas mal réagi dessus sur Twitter. Ouais, je veux pas avancer des trucs sans avoir de preuves, mais franchement, j'ai l'impression que des mecs, ils sont payés. C'est arrivé à un stade où les mecs, ils avaient un avis qui était complètement différent il y a des mois. Mmh. Et maintenant, aujourd'hui, ils sortent complètement l'opposé, mais genre tous les soirs. Et même moi qui regarde pas cette émission, pour voir ce qui se passe sur Twitter, j'ai l'impression que tous les jours, ils disent la même chose.
Ouais, je l'ai retweeté en disant que Riolo était une trompette parce que effectivement on parle bien en mois, on parle même pas en année. Au début de la saison, en septembre, octobre, novembre, et il avait un discours. Aujourd'hui, il en a un totalement différent et il reste absolument dessus. Donc c'est forcément qu'il s'est passé quelque chose. Et à partir du moment où il s'est rien passé côté PSG, c'est forcément qu'il s'est passé quelque chose de son côté à lui. Et bon, on peut se poser des questions, hein. On va pas rentrer dans les sujets épineux comme ça parce qu'on maîtrise pas, mais c'est très étonnant, c'est clair.
Sabri, oui, tout à fait. Franchement, Bernardo, je l'éteins. D'ailleurs, je l'ai déjà éteint dans un five un jour à Garges-lès-Gonesse, j'en dirai pas plus. Et qu'est-ce qu'il y avait encore comme question ? Pourquoi les médias manquent-ils de respect à Luis Enrique ? Moi, je pense que en fait, on a tellement un bon coach, entre guillemets, pour une fois, côté gestion d'effectifs, qu'en fait, ça les embête. Ça les embête parce qu'on a eu toujours des problèmes. Là, on a un mec qui gère plutôt bien l'effectif. Après, tactiquement et ce qu'il propose sur le terrain, on peut ne pas tous être d'accord. Moi, personnellement, je suis pas un grand fan pour l'instant. Mais côté manager, moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un vrai manager comme ça dans l'effectif. Et je crois que ça dérange parce qu'ils n'ont pas plus grand chose à dire. Je sais pas ce que
ils n'ont plus grand chose à dire parce qu'il n'y a plus un qui sort. C'est ça aussi. Ah oui. Les journalistes, leur but, c'est de vendre. Il leur faut des infos, il leur faut des fuites, il faut qu'ils puissent mettre le PSG en difficulté, etc. Ou au moins qu'ils puissent en parler et qu'eux sortent l'enfant en premier. C'est ça leur intérêt. Ils ont plus cet intérêt-là. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils attaquent le coach.
C'est... Oui, et puis, par rapport à ça, on peut rajouter aussi que parler tactique et parler football pur, ça fait moins vendre que faire du buzz en tapant sur Luis Enrique ou en parlant de la gestion du cas Mbappé. Donc, malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, le gagne-pain et la clé, on va dire, le truc le plus important, c'est l'argent, c'est les audiences. Et donc, tu vas forcément regarder qu'est-ce qui fait le plus d'argent et qu'est-ce qui fait le plus d'audience. Et malheureusement, c'est ces sujets-là complètement stupides, mais on ne peut pas leur demander plus.
Ouais, donc tout ça pour dire, écoutez-nous, parce que nous, on s'en fiche du buzz. Donc, voilà, on est là pour parler PSG. Il y avait quoi d'autre comme question ? Est-ce que ça et puis vous choque
aussi parce que c'est un entraîneur étranger. Hein. Ça aurait été un entraîneur français, il aurait pris moins cher. Hein. On sait que Galtier, l'année dernière, il était quand même assez protégé, alors que pour autant, on a vécu une saison scandaleuse. Et, et par le passé, les Thomas Tuchel, les Pochettino, les Unai Emery en ont pris sacrément pour leur grade aussi.
Unai Miskin, comment il a pris. Est-ce que ça ne vous choque pas la saison prochaine qu'on ait Barcola et Dembélé qui ne marquent pas, j'imagine qu'il voulait dire en tant que titulaire. Ça ferait que tout portera sur les épaules du numéro 9, a priori.
Bah, le truc, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde la majorité des clubs, tu n'as pas forcément d'ailier. Alors après, sauf si c'est des superstars comme Saka ou Salah ou des choses comme ça, ou même Kvara au Napoli. Mais c'est rare quand même d'avoir deux top ailiers qui marquent beaucoup ou même d'en avoir un. En général, c'est plus le 9 qui plante. Maintenant, Barcola, on sait qu'il est capable de ça. Il va devoir gagner quand même en régularité et en stats. Dembélé aussi. Je pense que Dembélé, on va arriver l'année prochaine à 27 ans, je crois. Hein. Donc, je pense que c'est peut-être un petit peu trop tard pour gagner en statistiques et devant le but. Mais après, est-ce que tu vas chercher de la concurrence? En fait, il faut se poser la question. Est-ce que tu fais confiance à Barcola, Dembélé pour animer tes côtés et marquer plus? Est-ce que tu remets tout sur les épaules du numéro 9 parce que tu penses qu'il peut t'apporter 30-40 buts dans une saison bien servie et régulier durant toute la saison? Ou est-ce que tu penses qu'il faut justement donner de la concurrence à tes côtés, recruter quelqu'un qui est capable de marquer un petit peu plus, comme un Kvara ou comme un Leao ou comme un autre, peu importe, sachant que ce n'est pas forcément des mecs qui statent ultra non plus. Hein. Leao, on en a déjà discuté, mais ce n'est pas forcément le meilleur niveau stat. Donc, c'est une question à se poser. C'est une question à se poser, mais je ne serais pas surpris qu'on continue comme ça ou je ne serais pas surpris même qu'on recrute quelqu'un à gauche. Oui, il y a Xavi Simon, c'est vrai, Eve. Après, est-ce que tu le mets au milieu ou à gauche? Quelle est la question?
Gâteau. Il n'est plus avec nous, ok.
Gâteau, il réfléchit.
Non, mais bon... Parce que déjà, moi, on fera les bilans en fin de saison, il ne faut pas spoiler les prochains lives. Déjà, Dembélé, Barcola, il faut qu'il marque plus, surtout Dembélé. Et puis, qui vous dit qu'ils ne marqueront pas l'année prochaine parce qu'il y aura mécaniquement, tu as un Mbappé qui marque moins, bah forcément, ça va se diffuser autre part. Vitinha les frappe de loin, Barcola qui aura peut-être plus d'espace. Je ne sais pas, après, ça dépend quel neuf va être associé. Est-ce que c'est Ramos avec un point de succession ou est-ce que c'est Asensio qui va être un neuf qui décroche? Il y a plein de facteurs et on ne peut pas se baser là-dessus comme ça pour décrire l'année prochaine. Au moins voir le premier mois de l'année prochaine pour essayer de faire des anticipations. Mais là, difficile de répondre à cette question, les gars.
Je vois que dans le chat, il y a pas mal d'entre vous qui veulent vendre Skriniar et Kolo. Bon, je tiens déjà à vous dire que c'est mort. Après, je ne sais pas ce que vous allez dire, vous deux, mais à mon avis, vu les deux salaires qu'on a donnés à ces deux joueurs, je pense qu'on peut dire que ça va finir comme Kurzawa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Skriniar à son âge et Kolo Muani, on lui a donné, je ne sais pas, 10 ou 11 millions, je ne me rappelle plus exactement. Du coup, je pense pas que ça, c'est qu'on va pouvoir les vendre, Rico.
Alors, Kolo Muani, ouais, ça me semble quand même très compliqué. Peut-être, si un club anglais vient, pourquoi pas. La Saoudi, je ne pense pas, mais un club anglais, pourquoi pas. Eux peuvent mettre l'argent et peuvent s'aligner sur le salaire. Donc, après, à partir du moment où même si tu mets un petit peu moins, mais le joueur a envie de jouer, il partira. Parce qu'on sait que Kurzawa, là, lui, il n'a plus envie. Kolo Muani, Skriniar, on peut penser qu'ils auront envie. Donc, Kolo Muani, ça me semble peut-être plus compliqué. Par contre, Skriniar, ça me semble un peu plus plausible dans le sens où c'est un mec quand même qui a envie de jouer, qui a des échéances aussi avec sa sélection nationale, qui a été capitaine aussi de l'Inter. Donc, c'est quelqu'un pour qui jouer au football et être dans un club qui lui fait confiance et où il est un joueur important, ça compte. Donc, je pense que si tu as une équipe qui vient, se propose et lui donne le capitana ou un projet important, des responsabilités et un bon salaire, même si lui, je pense qu'il pourrait accepter un salaire peut-être moindre. Et il y aura des clubs de Première Ligue, on ne va pas se mentir. Il y en aura d'autres aussi, peut-être en Serie A pour un retour. Donc, vendre Skriniar, oui, pourquoi pas. Kolo Muani, ça me paraît très compliqué quand même.
Gâteau, tu es d'accord?
Pourquoi vendre Skriniar? Son début de saison n'était pas forcément le meilleur, mais c'était pas une catastrophe. Et puis en plus de ça, il est blessé, donc première année, etc. Par contre, Kolomwani, il a beaucoup joué. Et moi, j'ai une offre, je vends. J'ai une offre, je vends. La logique voudrait que je laisse une saison, etc. Même si ça va être compliqué, après, ça va dépendre de l'offre. Oui, on a perdu. On va perdre de l'argent sur ce joueur. Il ne faut pas essayer de chercher à faire des plus-values. Ça, c'est mort, ça. Je ne vois pas un avenir radio au Paris Saint-Germain. Mais après, c'est compliqué de le vendre, vu son contrat. C'est un contrat de 5 ans, je crois. Oui. Je ne sais pas c'est quoi le salaire.
Moi, ce qui me concerne, il est là jusqu'en 2027.
Tu vois, ça, c'est... En tout cas, moi, si je peux vendre l'un des deux, c'est Kolomwani, c'est pas Skriniar. Skriniar, bon, bah, tu sais, il peut être là, supplier Marquinhos ou Hernandez. Ou, en tout cas, il faut du monde aussi dans l'axe, donc j'ai pas trop de problème avec lui. Et là, il se remet bien, j'espère. En tout cas, on a Kolomwani, les gars. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est dehors. Moi, c'est dehors. C'est de le prêter. C'est, en fait, le standing du Paris Saint-Germain, je pense que c'est trop pour lui. C'est pas un joueur typé Champions League. Voilà, c'est peut-être l'Europa. C'est des clubs comme Rennes. Et je vais me prendre peut-être pour un fou, mais je lui vois des qualités à Randal Kolomwani, pas comme offensif, mais comme latéral droit. Non, mais je vous jure que latéral droit, les gars, ça peut être un tueur. Il a de la puissance, il a du coffre. Techniquement, c'est pas forcément le meilleur, mais il y a de quoi faire. Débordement, centré, rentrer dans l'axe, il a la qualité pour tirer. Donc franchement, mais voilà. En plus, c'est un mec qui est sec, et si un mec qui est sec, qui est volontaire, c'est ça qui me fait le plus mal pour lui. Moi, je suis pas là à dire ouais, faut absolument le vendre, qu'il dégage, c'est une pourriture, il est nul. C'est pas ça. Il est sain, mais il est pas bon, malheureusement. Donc on est obligé de se le dire. Et je vois en lui des qualités de latéral droit dans ce genre de club. Et sinon, voilà, comme il y a eu ce genre de faits qui ont été réalisés dans d'autres clubs. Je me rappelle, Brunin Sarr à Marseille ou Maxime Cornet à Lyon ou ces trucs-là. Et pourtant, après, voilà. Mais Kolomwani en piston, c'est le genre de choses qui peut. Faut... Non, mais je vous dis, quand vous allez voir. Quand vous allez
c'est
vous
pas déconnant. C'est vrai que c'est pas déconnant.
Vous allez réfléchir, vous allez dire, voilà. En tout cas.
Non, mais défensivement, moi, tu ne peux pas le mettre arrière droit.
Il peut créer quelque chose. Mais après, moi, c'est la solution.
Ils sont droits, à la limite. Mais bon.
Mais moi, franchement c'est dur. C'est dur au PSG, en tout cas cette saison. Et bizarrement, par rapport à Ramos, où je lui vois, tu vois, une progression potentielle, Kolomwani, je ne peux pas ambitionner quoi que ce soit pour lui. C'est triste.
Bon, dans tous les cas, à mon avis, le joueur, il est là jusqu'à 2028, je crois, à la fin de son contrat. Donc, bon, vous pouvez espérer le vendre, je pense qu'il va rester là. Question de Yams. Ouais. Il y a, je crois, Upamecano qui n'a pas prolongé son contrat. En parlant de Kolomwani, même agent que Dembélé et que Upamecano. Donc, il a déjà mis deux de ses poulains l'été dernier au Paris Saint-Germain. Upamecano, cet été, Bayern, s'il ne prolonge pas, c'est soit tu vends, bah, soit tu vends s'il ne prolonge pas. Du coup, est-ce que ce ne serait pas le moment de faire une charnière française, Recoba?
Bah, amené comme ça, moi, les gars, je vous dis non. Parce que charnière française, pour quoi faire? Là, l'argument, il est sportif ou il est charnière française? Moi, charnière française, ça ne m'intéresse pas. Ça peut être un plus, mais on parle football uniquement. Donc, effectivement, on en parlait avec Tonton hier sur sa chaîne. Konaté et Upamecano arrivent à 2 ans de la fin de leur contrat. Les deux vont avoir aussi un changement d'entraîneur. Donc, ça peut être le moment de s'engouffrer parce que bah, si Liverpool ou le Bayern veulent les vendre, c'est maintenant. Parce que si eux refusent de prolonger, c'est maintenant que tu dois les vendre. Donc, un petit peu comme Hakimi aussi chez nous, bah, il va falloir s'asseoir et discuter. Donc, à voir ce que ça va donner au Bayern et à Liverpool. Là, on parle du coup d'Upamecano, à voir ce que ça va donner avec le Bayern, à voir si lui veut rester sur le long terme ou pas. Et si lui n'a pas envie de s'inscrire sur le long terme ou que le Bayern ne lui garantit pas forcément d'être un joueur majeur dans les futures années, alors au Paris Saint-Germain, s'il le veut, de s'engouffrer dans la brèche. Mais pour moi, ouais, effectivement, il va falloir suivre quand même, et on parle que de football, l'évolution contractuelle de Konaté et d'Upamecano.
Gâteau.
Les Copa Mécano, moi, c'est hors de question. Mais non, mais en plus, l'argument de la charnière française, mais qu'est-ce qu'on en a à faire, la charnière française ?
C'est pour la liste.
Pourquoi faire ? C'est quoi ces histoires ? Oui, il faut absolument une charnière française. Pourquoi faire ? Qu'on m'explique. Premièrement, deuxièmement, Copa Mécano, il a quoi de plus que les autres centraux qu'on a déjà ? Il a quoi de plus que les autres centraux qu'on a déjà ? Et en plus de ça, même si je suis fervent du départ de Marquinhos, etc. Mais pas Mécano, non. Pas Mécano aussi, lui aussi, il a déjà des problèmes. Il y a des sauts de concentration. Et ça, c'est des trucs de tonton. Pourquoi ils veulent absolument pas Mécano ? Pourquoi ? Moi, je... Non. Au Paris Saint-Germain, on sait que c'est un club particulier, un club où il y a de la pression. Un joueur comme ça qui a déjà des sauts de concentration au Bayern, je ne dis pas que le Bayern a moins de pression que le PSG, mais en tout cas, le Bayern, ils sont un peu plus tranquilles dans le sens où ils ont déjà gagné des choses et qu'ils sont un peu plus tranquilles au niveau de la presse. La pression de la presse allemande est bien moins importante que celle de la presse française vis-à-vis du PSG. Mais non, et je ne vois pas... c'est bien, en équipe de France, il est très bien, avec un cadre qui est bien réglé avec Didier Deschamps, ok, mais au PSG, j'en veux pas, moi. Pourquoi absolument... absolument vouloir mettre une charnière française. Je sais quoi. Pas pourquoi. Pas pourquoi. Non. Il y a des joueurs qui sont là, ils sont bons. Moi, je veux de jeunes joueurs qui s'impliquent au club. Peut-être que lui, il aime le club, etc. Ça, c'est une chose. Mais de dire charnière française, non. Rien à faire de ça.
Ouais, je sais pas d'où vient cette légende urbaine que tout le monde regrette Thiago Silva. Moi, perso, je le regrette pas. Il a fait son histoire.
Il est parti au bon moment. Ouais, il est parti au bon moment. Alors forcément, derrière, tu vois qu'il est toujours bon, mais on savait très bien qu'il allait être toujours bon et qu'il n'était pas fini, mais il est parti au bon moment. Il est parti au bon moment, comme dit Maria. Ils sont partis très bien, de la bonne manière, et pour moi, ils sont partis au bon moment. Ils auraient peut-être pu donner une année de plus, mais non, ils sont partis au bon moment. Et ceux qui regrettent Silva, tu connais, c'est toujours les mêmes, et toujours des nostalgiques, des machins, parce que lui, il a gagné la LDC ou parce qu'il a fait un bon match à un moment donné. Alors on va dire, ouais, ce mec me manque. Mais bon, ça veut rien dire.
Ouais, comme tu dis, c'est la nostalgie. Ouais, c'est des mecs qui te diraient que Di Maria il sera encore titulaire au PSG. Tu vois, c'est un très grand joueur de notre histoire. Mais ça y est, il y a un moment, il faut passer à autre chose. Bah écoutez, les gars, ça fait une heure qu'on est en live. Si vous n'avez pas d'autres questions, Réco, Gâteau, vous avez des choses à rajouter ?
Pas spécialement. Je préfère Konaté Coupa Mécano. Je crois que la question était passée à un moment donné. Parce que Konaté, au-delà d'être français, parce que pour moi, c'est pas un argument, mais surtout, il est très très fort, je trouve. Et lui, sous pression, il n'y a pas de problème. Et je trouve que la charnière.
Bon.
Ouais, c'est un problème physique. Ouais, après, il faut voir. On voit Lucas Hernandez est très bien géré ici. Et puis surtout, si tu as un Lenny Yoro, ça peut tourner. Tu lui donnes du temps de jeu au petit et tu permets à Konaté de jouer un petit peu moins, donc ouais, pourquoi pas.
Ah bah tiens, dernière question, on va terminer là-dessus. Est-ce que vous pensez que Luis Enrique va faire le mercato cet été ou est-ce que ce sera encore Campos/Nasser ?
Est-ce que lui, il ne va pas rentrer dans un rôle de manager général dans ce club ? J'ai l'impression que... Parce que le départ de Mbappé, pour moi, il va lier le départ de Campos. Hein. Ça, c'est une impression que j'ai. Ils sont trop liés et puis après, moi j'ai pas envie de donner toutes les clés à un entraîneur, à un manager et... parce que j'ai le sentiment que s'il sort là, que Luis Enrique, même s'il commence très bien, même si on peut même gagner un titre etc. européen, j'ai l'impression qu'il va mal finir cette histoire déjà, ça c'est le premier point. Deuxième point, si on lui donne trop de pouvoir à une personne dans le club, on l'a fait déjà avec des joueurs, on l'a fait déjà avec des directeurs sportifs etc. Font un mercato qui est décidé par plusieurs personnes et qui soit dans le projet sportif du coach, c'est vrai. Par contre, Campo, je crois que je ne fais plus confiance depuis un moment déjà. Donc, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se dégoupiller, tout ça, mais que ce soit que Luis Enrique ou que Luis Campos qui décide, moi, ça ne me plaît pas. Faut un collège qui vont étudier les profils et améliorer l'équipe au mieux.
Juste avant de donner la parole à Réco, du coup, j'allais pas le faire, Olivier, mais tu me chauffes. Donc, il y a moyen demain, on fasse le tirage en live, j'avoue, complètement oublié.
Vendredi.
Ah, c'est vendredi ? Ah, bah, c'est mort. Désolé. C'est vendredi. Vendredi midi, c'est mort. Allez, je te laisse répondre, Rico.
Moi, je ne suis pas trop d'accord avec Gâteau. Je pense que Luis Campos va rester parce que je pense qu'il a son rôle dans le scouting, justement. Il sera peut-être fragilisé. Il aura peut-être moins de responsabilités avec le départ de Mbappé parce qu'on sait que voilà, son arrivée était liée, qu'il devait le garder, etc. Bref, voilà. Donc, il sera peut-être fragilisé, entre guillemets, mais pour moi, ils sont satisfaits du travail qu'il fait. Luis Enrique a encore dit merci Luis Campos pour Beraldo. Donc, les deux ont l'air de pouvoir cohabiter, chacun dans son rôle. Je pense, comme Gâteau aussi, qu'il ne faut pas forcément donner les clés qu'à la même personne, mais il faut que les deux puissent travailler en symbiose, comme Edwards et Klopp, notamment à Liverpool. Liverpool, d'ailleurs, qui, avec le départ de Klopp, fait revenir Edwards pour justement restructurer tout ça. Donc, c'est important d'avoir plusieurs hommes, mais qui travaillent ensemble. Et à partir du moment où Luis Enrique et Luis Campos travaillent bien ensemble, que chacun est dans son rôle, que Luis Enrique a besoin de certains profils et que Luis Campos lui ramène et que ça marche plutôt bien, je ne vois pas pourquoi on ferait partir Luis Campos, sachant qu'on a besoin de stabilité. Si les deux ont les clés, c'est très bien. Luis Enrique demande ses joueurs, Luis Campos lui ramène, trouve aussi des bons petits joueurs parce qu'on le sait, le scouting, c'est sa force. Donc, je pense que les deux peuvent travailler très bien et on verra pour le mercato d'été là ce que ça va donner parce que ça va être quand même un moment important. On a eu un gros mercato l'été dernier et ce mercato-là va être très, très important aussi. Un mélange de jeunes et surtout de cadres qu'on va avoir besoin. Donc, on verra bien ce que ça va donner.
Ok, moi je suis plutôt d'accord avec tout ça. Je n'ai pas envie de donner les clés à Luis Enrique parce que je suis d'accord avec Gâteau. Je pense que fin de saison prochaine, cette histoire risque de partir en vrille. Donc, j'aimerais pas qu'il nous ramène plein de joueurs de Liga ultra technique qui, au final, quand il partira, on va devoir se débarrasser de tous ces mecs-là. Et vu le salaire qu'on va leur donner, on va rester encore coincé jusqu'à leur fin de contrat. Et puis, on va s'arrêter là, les gars. Juste, vous êtes 480. Quand je vous dis de liker, de vous abonner, c'est pas pour vous embêter. C'est pour qu'on puisse faire plus de contenu. Là, j'ai des projets pour faire plus de vidéos sur cette chaîne. Donc, likez, abonnez-vous. Ça aide à avoir des partenaires, qu'on puisse avoir plus de gens sur la chaîne pour faire plus de contenu pour vous. Donc, on veut un max de likes, un max d'abonnements. Et demain, allez sur la chaîne d'Arekoba et dites-lui joyeux anniversaire. À partir de minuit, laissez-lui là les commentaires. Ça le fera développer aussi. Bon, sur
ce, il n'est pas marié, pour savoir. Il n'est pas marié, célibataire. Donc, allez-y. Allez-y, à peu près.
Ah oui, c'est oui, vrai. 30 ans, c'est l'âge de se poser. Donc, pour celles qui nous regardent, les DM de Rekoba sont ouverts.